Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent par Zoom. J'ai appris à l'instant qu'il y avait aussi parmi nous un couple qui nous visite, qui vient de l'île de la Réunion. Je vais leur demander s'ils sont là de bien vouloir se lever. Voilà, nous vous souhaitons la bienvenue frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je vous propose d'ouvrir la parole du Seigneur. Nous allons lire ensemble dans le livre d'Osée, le prophète Osée, au chapitre 1er. Osée, c'est le premier de ce que l'on a appelé les 12 petits prophètes. Pas si petits que ça dans leur enseignement en tous les cas. C'est juste après le prophète Daniel et entre le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse. Osée, chapitre 1er. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Bééri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Il alla et il prit Gomer, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, « Appelle-le du nom de Jisraël, car encore un peu de temps, et je châtirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jisraël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. » Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, « Donne-lui le nom de Lo-Ruhama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda, je les sauverai par l'Éternel leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sevra Lo-Ruhama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, « Donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. » Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira, « Fils du Dieu vivant ». Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jisraël. Dites à vos frères, amis, et à vos sœurs, Ruhama. Nous allons un peu plus loin, au verset 16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai les vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde, je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. » Encore quelques versets, chapitre 3. L'Éternel me dit, « Va encore, et aime une femme aimée d'un amant, et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux, et qui aiment les gâteaux de raisin. Je l'achetai pour 15 sicles d'argent, un homer d'orge et un lédec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans théraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Amen. Seigneur, ta grâce, nous réclamons le secours de ton esprit, parce que nous avons besoin de recevoir ton conseil. Nous voulons vraiment marcher et nous conduire comme tu le désires. C'est la raison pour laquelle je te prie que ton esprit nous guide dans la méditation de ta parole et grave dans notre cœur le message que tu veux y graver, afin que nous te soyons fidèles tous les jours de notre vie jusqu'à ce que tu viennes nous chercher, afin que nous soyons avec toi pour l'éternité. Seigneur, nous avons cette espérance dans notre cœur et nous te prions de sceller cela par une action souveraine et puissante de ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils lisent pour la première fois ce texte de la parole de Dieu, sont plongés dans la perplexité. Et je dois vous avouer qu'en ce qui me concerne, lorsque j'ai lu pour la première fois ce texte, moi aussi, j'étais très étonné de ce qui est écrit. Car en fait, nous venons de lire ensemble que Dieu s'est adressé pour la première fois au prophète Osée. Et il lui demande quelque chose qui nous semble incompréhensible. Il lui dit simplement d'épouser une prostituée. Eh bien, la raison pour laquelle il lui demande cela est juste donnée vers la fin du verset 2, où il dit « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Avant de pouvoir retirer un enseignement de tel passage de la Bible, il faut que nous comprenions que dans un premier temps, tout ce qui est contenu dans des livres prophétiques s'adresse d'abord, en priorité, au peuple d'Israël. Or, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on s'aperçoit que Dieu se présente comme un époux et le peuple d'Israël est considéré comme une épouse. Mais l'épouse, hélas, se trouve en défaut parce qu'elle va se prostituer, se prosternant devant des dieux étrangers tels que les Baal, les Astartés, se prosterner devant des idoles, et cela est considéré dans la parole de Dieu comme étant un adultère. Adultère, bien sûr, sur le plan spirituel. Et, bien entendu, les paroles que nous pouvons lire, comme ça, peut-être pour la première fois, dans un texte qui est contenu dans les Saintes Écritures, peut paraître choquant. Cependant, il faut que nous comprenions quelque chose. Même si l'attitude qu'a adoptée le prophète Osée en faisant ce qui lui a été demandé semble surprenant de la part de Dieu. Il faut pour autant que nous sachions que Osée a porté également une certaine responsabilité dans l'action qu'il allait accomplir. Car vous savez, ce qui rentre dans le plan de Dieu, ce qui rentre dans la volonté de Dieu, ce qui est bien comme ce qui est mal et qui constitue la trame de notre vie, tout cela peut être considéré dans le dessein de l'Éternel. Pourquoi ? Parce que vous connaissez ce dicton qui affirme « Dieu écrit droit avec des caractères tordus ». Et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont très surprenantes dans la vie de certaines personnes, mais qui pour autant sont présentées dans la Bible comme étant dans le cadre de la volonté de Dieu. Je voudrais apporter quelques témoignages. Le premier témoignage tiré de la Bible, eh bien, c'est le témoignage de cet homme remarquable qui s'appelle Joseph. Nous savons tous que cet homme était dans le plan de Dieu. Nous savons tous qu'il a pu accomplir les desseins de l'Éternel. Cependant, il y a des choses qui lui sont arrivées et qui étaient, je dirais, le résultat de la haine, de la méchanceté de la part des frères qui l'entouraient. Nous connaissons tous très bien l'histoire de Joseph, comment il a été livré, vendu, il est devenu un esclave, et chaque fois que nous lisons son histoire, surtout dans toutes les difficultés qu'il a dû être capable de traverser, toutes les épreuves qu'il a connues, nous sommes obligés de reconnaître qu'il y a là une action venant de la part des hommes. Cependant, quand finalement il est devenu le bras droit de Pharaon et qu'il a pu accueillir ses frères qui lui avaient causé tant de difficultés, qui lui avaient causé tellement de souffrances, eh bien, Joseph n'a fait aucun reproche à ses frères. Il n'a pas dit que tout ce qui lui était arrivé à cause de la méchanceté, de la haine ou de la jalousie de ses frères. Mais il a prononcé une seule parole, il a consolé ses frères et il a dit « Tout ce qui m'est arrivé, c'est Dieu qui l'a fait ». Il a donc tout placé dans le cadre du dessein de l'Éternel, tout placé dans le cadre de la volonté de Dieu. Et en dehors de l'histoire de Joseph, nous allons aller vraiment vers l'exemple suprême, vers celui que nous avons honoré ce matin, vers celui que nous avons glorifié, que nous avons adoré, vers le témoignage de Jésus. Et j'entends un homme tel que Pierre, le jour de la Pentecôte, eh bien, apporter un message particulier, vraiment vibrant, puissant, sous l'onction du Saint-Esprit. Et il dit, cet homme qui a été livré, écoutez bien la suite, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, et il est dit, livré selon le dessein de Dieu. Et quand je lis un texte qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, je découvre cela. Écoutez bien cette parole. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Vous ne trouvez pas que c'est choquant? C'est Dieu lui-même. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est vrai que des hommes ont été utilisés comme des instruments et c'est vrai aussi qu'il y a eu la méchanceté, la haine autour de lui. Il y a eu l'action de Judas. Mais même au sujet de Judas, alors que nous pourrions vraiment dire que cet homme l'a trahi et a fait un acte extrêmement coupable, de lui, il est dit aussi que que c'était dans le dessein de l'Éternel. Vous voyez, la volonté de Dieu était là. Parce que au travers de toutes ces choses infiniment négatives en apparence, il y avait une leçon d'amour, une leçon de miséricorde, et il allait s'accomplir l'œuvre qui nous amenait aujourd'hui à rendre grâce à Dieu pour le grand salut dont nous sommes les uns et les autres bénéficiaires. Alors, je retourne ici dans mon texte. La femme de cet homme osé menait-elle déjà une vie dissolue quand elle a été épousée par Osé, ou est-ce qu'elle s'est engagée plus tardivement dans cette vie, à l'époque de leur mariage? Est-ce que Osé connaissait le genre de femme qu'elle était ou qu'elle allait devenir? Je ne peux pas répondre avec certitude à ces questions-là. Il est une chose sur laquelle, pourtant, la Bible ne laisse placer absolument aucun doute. Il est dit ceci: Osé, loin de juger ou de se juger responsable du choix de sa compagne, eh bien, il dit simplement que c'était dans le cadre de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu. Cela ne veut certainement pas dire que Osé ne portait pas une part de responsabilité, qu'il n'était pas blâmable quelque part. Je viens de montrer quelques exemples tirés de la parole de Dieu, où on voit que le dessein de l'Éternel s'est accompli, mais il s'est accompli en utilisant des êtres humains qui, eux, étaient particulièrement blâmables. Et même, en fait, Pierre, lorsqu'il parle de Jésus qui est monté sur la croix pour accomplir le dessein éternel de Dieu, n'oublie pas de dire aussi que ceux qui ont été des instruments utilisés par Dieu étaient des impies. Ça veut dire donc qu'ils étaient condamnables au plus profond d'eux-mêmes. La question se pose, pourquoi est-ce que Dieu permet-il ce genre de choses? Vous savez, mes chers frères et sœurs, vous et moi, nous pouvons être confrontés à certaines difficultés, à certaines épreuves, peut-être dans le cadre familial, peut-être dans le cadre local, en dehors du cadre de la famille, peut-être même dans le cadre de la famille de Dieu, de l'Église elle-même, peut-être dans d'autres domaines. Et puis, au fond de nous-mêmes, il y a parfois une sorte de révolte. Et nous nous disons, pourquoi est-ce que Dieu le permet? Mais nous ne devons jamais oublier qu'il y a ce verset de l'Écriture qu'il m'arrive aussi souvent de prononcer, que vous connaissez très bien et qui affirme toutes choses. Écoutez bien, les bonnes comme les moins bonnes, celles qui nous plaisent comme celles qui ne nous plaisent pas, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Comment est-ce que cela va être vérifié dans le cadre du message qui est contenu là dans ce livre prophétique? Alors, voyons un peu quel a été le résultat de ce mariage dans la vie d'Osée. La première chose qu'il nous est dit, c'est qu'après être allé avec cette femme, après l'avoir épousée, eh bien, il a conçu un enfant. Et la Bible dit très clairement, je vous prie de prêter attention à cela, vers la fin du verset 2, il est dit, il alla, prit Gomer, verset 3, fille de Diblaïm, elle conçut et lui enfanta un fils qu'ils ont appelé Jisraël. Et bien sûr, pour ceux qui connaissent l'histoire de la Bible, Jisraël, il y a eu une scène horrible. Et dans cette scène horrible qui s'est déroulée à Jisraël, il y a un homme qui s'appelle Jéhu, qui a été utilisé comme un instrument de jugement de la part de Dieu. Jéhu s'est précipité sur les descendants du roi Saül et il a manifesté un zèle qui était excessif. Et voyez-vous, il faisait que ce que Dieu voulait, mais il l'a fait d'une manière excessive, comme quelqu'un qui était zélé à l'extrême. Et le peuple n'a pas pris en considération que son action était brutale, mauvaise, mais Dieu, lui, n'a pas oublié cela. Et il fallait effectivement que cette manière d'agir excessive trouve une juste condamnation. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il est dit que, justement, à Jisraël, et puis c'est devenu comme un symbole, car dans cette vallée-là, il va y avoir également beaucoup, beaucoup de sang qui va être répandu dans les derniers temps. Cependant, c'est là aussi que Dieu va se manifester dans sa puissance d'une manière glorieuse pour venir au secours du peuple de Dieu, de ce peuple d'Israël. Et je dois vous dire, mes frères et sœurs, que Dieu, quand il exerce ses jugements, il est très sévère. Mais en même temps, je dois dire qu'il est riche dans son amour. Il y a un équilibre formidable dans le caractère de Dieu. Et si Dieu a permis qu'Osée se trouve dans cette situation, unie à une femme prostituée qui lui a dû lui causer beaucoup de souffrances, beaucoup de peines, c'est pour que lui, il puisse comprendre dans le fond de lui-même quelle était la peine du cœur de Dieu en face de la dissolution, en face du comportement outrageux du peuple d'Israël. Et vous savez, rien ne peut nous rendre plus compréhensifs que de passer par des situations où nous pouvons ressentir à l'intérieur de nous-mêmes ce que Dieu lui-même ressent. Et pour ce faire, eh bien, il nous conduit dans des moments qui sont extrêmement difficiles. Mais je remarque une chose. Il est dit, elle lui a conçu ce premier enfant qu'ils ont appelé Jisraël. Ensuite, il est dit, elle conçut. Mais retenez ce fait. Ce n'est pas elle lui a conçu ou elle lui a enfanté un enfant. Il est dit, elle conçut. Elle a donné un fils, une fille plutôt, le deuxième c'était une fille au monde, mais là on peut se poser la question, était-il le père? Peut-être pas, parce que c'était une prostituée, ne l'oublions pas. Et là est né un enfant et ils l'ont appelé Lo-Ruhama, car dit Dieu, « Je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. » S'il vous plaît, retenez cette expression-là. « Je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. » Alors j'ai été fort heureux au début de cette réunion, car notre frère Robert Guerrero a lu ce psaume 30, dans lequel vous avez certainement prêté attention à cela. Il y a un verset qui dit, Dieu, sa colère, elle dure un instant, mais il est ajouté, mais sa grâce, toute la vie. Et là, eh bien, c'est l'instant de la colère de Dieu. Et il dit, je ne pardonnerai plus, Je n'accorderai plus la miséricorde. C'est le moment où Dieu manifeste le fait que dans son cœur il y a une grande peine, une grande souffrance, parce que le peuple est infidèle, parce que le peuple ne marche pas selon la volonté de Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, pour ce prophète Osée, ça devait être très dur d'exercer le ministère de prophète dans une période où le peuple oubliait Dieu et outrageait Dieu par des comportements abominables. Et je voudrais simplement mettre en relief ce matin, frères et sœurs, nous ne sommes pas dans une époque meilleure. Tout autour de nous, la société est pourrie, corrompue, et il y a des choses étonnantes qui se passent. Ce que nous appelons bien est appelé mal par ceux de notre génération. Ce que nous appelons mal, selon le témoignage biblique, est appelé bien par ceux qui nous entourent au sein de cette génération. Nous nous enfonçons de plus en plus dans l'immoralité. Nous nous enfonçons de plus en plus dans la corruption. Je suis effrayé d'apprendre que le Parlement actuel de notre propre pays va être obligé de se pencher sur une loi pour permettre quoi ? Pour permettre l'IVG à 14 semaines. Vous vous rendez compte ? Plus de 3 mois. Et là, nous sommes obligés de faire une comparaison avec l'époque dans laquelle vivait Osée. Corruption, immoralité, et puis c'était une même époque où il n'y avait pas seulement Baal, pas seulement Astarté, dont le culte se faisait avec la participation de prostituées du temple, ce qui explique la raison pour laquelle, justement, Dieu a permis que Osée puisse entrer en relation avec une prostituée de cette manière-là. Et vous voyez, ce qui était encore terrible, c'est qu'à cette même époque, il y avait une autre idole, notre dieu étranger qui s'appelle Moloch. Et savez-vous ce qui se passait avec Moloch ? C'était une sorte de statue en fonte, creuse. Il y avait le feu à l'intérieur. Et on y plongeait les enfants qu'on ne voulait plus garder. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qui est une horreur, une cruauté indicible ? Et vous savez ce que faisaient les participants à ce culte ? Eh bien, ils utilisaient la musique, une musique très bruyante. Ils frappaient du tambour aussi fort qu'ils pouvaient. Savez-vous pourquoi ? Simplement pour couvrir le cri des enfants que l'on jetait dans cette statue de Moloch. Dites-moi, mes frères et sœurs, vous ne croyez pas qu'aux oreilles de Dieu monte le cri de tous ceux qui sont tués de cette manière-là ? Disons-le ouvertement, par l'avortement, à une période semblable. Alors que lorsque je plonge mes regards dans la Bible, je découvre quoi ? Je découvre que la Bible me dit, dès le sein maternel, tu es mon Dieu. Même si j'étais dans le sein maternel comme une masse informe au commencement de ma conception, Dieu me connaissait. Il nous connaissait d'ailleurs dès avant la fondation du monde. Et je dois dire ici, c'est un crime, c'est quelque chose d'odieux. Et c'est au sein de cette génération que se perpétuent ces choses qui sont terribles. Comment voulez-vous que Dieu ne soit pas en colère ? Dieu est en colère. Et d'ailleurs, ici, au chapitre 2 et au verset 11, alors nous voyons comment il s'exprime. Il dit, c'est pourquoi, parce qu'il y a une génération aussi perverse. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon moût dans sa saison. J'enlèverai ma laine et mon lin qui devait couvrir sa nudité. Maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Quand on entend ces paroles, on dit « Ah, oh là là, vraiment Dieu est en colère. Dieu va mettre un coup d'arrêt, un frein à de tels comportements. » Mais je m'arrête ici un instant. Mes frères et sœurs, quand nous nous trouvons face à ces problèmes que nous venons de décrire, à ces brièvement, quand nous nous trouvons face à cela, il y a pour nous deux tendances qui se présentent à nous, deux possibilités qui se présentent à nous. Mettez-vous un peu à la place des prédicateurs. Mettez-vous un peu à la place des pasteurs. Mettez-vous un peu, s'il vous plaît, à la place des serviteurs de Dieu, un instant. Et posez-vous la question, comment faut-il agir au sein d'une génération aussi perverse? Comment faut-il agir? Comment se conduire, même quand le peuple de Dieu, peut-être que dans sa médiocrité spirituelle, finit même par tolérer et accepter certaines choses qui viennent de l'extérieur et qui envahissent nos rangs? Parce que, comme nous l'avons entendu dimanche dernier, nous sommes bien obligés de reconnaître que même jamais, comme aujourd'hui, au sein de l'Église, il y a eu tant de divisions sur le plan familial, tant de divorces, tant de faillites sur le plan matrimonial, tant de problèmes entre les parents et les enfants, tant de problèmes entre les parents et les adolescents en particulier. Nous sommes obligés de voir cela et de dire alors, comment réagir? Deux manières d'agir. Premièrement, avoir un message de feu, un message qui dénonce le péché. Certes, oui, il ne faut pas perdre de vue cela. Il faut que le péché soit appelé péché jusqu'à la fin et il faut le dénoncer jusqu'à la fin. Mais attention, il ne faut jamais tomber dans le travers de Jéhu, à qui Dieu avait dit d'entrer en jugement, il était utilisé comme un instrument pour exercer son jugement, mais lui, il est allé plus loin que ce que Dieu voulait. Car voyez-vous, je répète ce que nous avons entendu ce matin au travers de la lecture, la colère de Dieu, elle dure un instant. Il se révèle en justice. Et il est capable de dévoiler ce qui se cache dans nos cœurs, dans nos vies, au sein de la société, au sein de l'Église. Tout cela, il va le faire. Mais il ne nous accable pas au-delà d'une certaine limite. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, nous voyons combien le cœur de Dieu, malgré qu'il est outré par le mal et qu'il entre en jugement contre le péché, le cœur de Dieu est aussi un cœur de père. Et regardez ce que nous avons lu. C'est pourquoi voici, je veux la tirer, la conduire au désert. Je parlerai à son cœur, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor. Mais il vient de dire que le moût ne coulera pas. Il vient de dire que le blé s'arrêtera. Il vient de dire que le jugement va s'exercer. Mais il ne peut pas faire autrement que d'appeler le peuple à la repentance. Et il dit, je veux l'attirer, je veux vraiment qu'il considère mon peuple, ma miséricorde, ma compassion. Je veux parler à son cœur et je lui donnerai la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Je sais que vous tous qui êtes là, vous savez ce qui s'est passé dans la vallée d'Accor. Vous savez ce qu'il y a eu dans la vallée d'Accor. Quand vous lisez le livre de Josué, vous apprenez que c'est là, dans la vallée d'Accor, que l'homme qui avait défié Dieu et qui n'avait pas tenu compte des avertissements de Dieu Achan avait pris des choses qui étaient dévouées par interdit, les avait cachées dans sa tente. Et là, il a fallu qu'il y ait une dénonciation. Dieu a exercé son jugement et il est dit que lui, sa famille, ses enfants ont tous connu le jugement terrible dans la vallée d'Achor. Là, il a été obligé de reconnaître ce qu'il cachait. Il a été obligé de l'avouer et il a été obligé de payer. Mais voyez-vous, ici il est dit, je vais la conduire dans le désert, je vais parler à son cœur, je lui donnerai la vallée d'Achor, non pas comme un lieu où elle va mourir, mais comme une porte d'espérance. Car voyez-vous, mes frères et sœurs, la repentance, c'est toujours une porte d'espérance pour tous ceux qui, placés devant la réalité de ce qui se passe dans leur vie, ne cherchent plus à cacher, mais confessent et abandonnent. La Bible dit simplement ceci, celui qui cache les transgressions ne peut pas prospérer, mais celui qui les avoue et qui les abandonne, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, il obtient miséricorde. Et je voudrais aller juste un peu plus loin dans la méditation de ce passage. Je vous ai dit, la première action, première tentation même pour les prédicateurs, c'est de taper fort, fort sur le péché. Oui, je dis bien sur le péché, mais pas sur le pécheur. Et des fois, nous avons tendance, c'est vrai, c'est une erreur, de associer les personnes à leur comportement, à leur péché. Et pourtant, nous savons tous que si Dieu nous traitait selon nos péchés, qui pourrait subsister au milieu de nous? Qui pourrait être là encore? Je suis obligé de reconnaître avec cet homme de la Bible, la patience de Dieu, c'est mon salut. C'est notre salut. Alors, je vais aller un peu plus loin. Car Dieu va lui demander quelque chose. J'ai l'impression qu'Osée, eh bien, lui aussi était saturé par le comportement de sa femme, saturé parce qu'il voyait bien ses nombreux amants, tout son comportement. Et Dieu l'envoie vers elle, car au chapitre 3, il est dit, « Va encore et aime une femme, aimée d'un amant. » Ah ! Quand Dieu va lui dire de penser à sa femme, de retourner la voir, quel drame! Il est obligé de constater de ses propres yeux que sa femme, elle a déjà son cœur attaché à un amant. Elle est devenue l'esclave de quelqu'un d'autre. Et que va faire maintenant Osée? Vous savez, quand on constate une chose semblable, eh bien, c'est certainement quelque chose de difficile. Mais Dieu lui dit, aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. Vous vous rendez compte? Dieu voit tout le péché d'Israël. Et il continue à dire, malgré les paroles de jugement, mais je t'aime. C'est quelque chose d'inouï, qui dépasse notre entendement. Et il dit à Osée, aime-la comme moi j'aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Vous pouvez comprendre maintenant qu'arrivé à ce point, Osée, eh bien, il est en train de vivre par une expérience personnelle au fond de lui-même ce que Dieu ressent, ce que Dieu lui a comme sentiment. Et vous savez ce qui se passe? Verset 2. Je l'achetai pour 15 sicles d'argent, un homère d'orge et un létec d'orge, et je lui dis, reste longtemps pour moi. C'est incroyable. Vous savez ce que Dieu a fait? Il utilise la parole de jugement. Il nous met en face de notre responsabilité, il nous met en face de notre péché. Il ne cache pas le péché, il le dévoile, il le dit. Et puis après, quand il voit que nous avons bien compris dans quel état nous sommes, il dit, mais j'ai payé pour toi. J'ai payé pour toi. Et ça, c'est une chose qui nous parle aux uns et aux autres. Mon frère, ma sœur, il y a certainement ici au milieu de nous quelqu'un qui a quelque chose contre quelqu'un d'autre. Peut-être même pas pour les mêmes raisons, mais une souffrance cachée. Parce que le péché dans son entourage, que ce soit ton péché ou le péché d'autrui, t'a amené aujourd'hui à connaître une grande souffrance. Mais regarde, Dieu veut t'amener jusque-là. Parce que quand lui a constaté le péché, il nous a rachetés par le don de sa vie. Il nous a donné ce qu'il y avait de meilleur pour que nous, nous ne mourions pas, mais que nous soyons sauvés. Je dois vous dire, mon frère, ma sœur, je dois vous dire, ça me dépasse. Ne croyez pas que je joue la comédie. Ça me dépasse. Je comprends bien que Dieu, dans son amour immense, nous appelle à connaître ce qu'il connaît. Et il nous dit aussi aujourd'hui, comme je t'ai aimé, aime toi aussi. Tu le comprends, ma sœur? Tu le comprends, mon frère? Ça, c'est pas possible sans le secours du Saint-Esprit. Il y a un prix à payer. Nous, nous croyons qu'effectivement, tout se passe comme cela. Parce que la notion de grâce, pour certains, c'est devenu ce fait que, finalement, nous sommes revêtus d'un manteau et que nous n'avons rien d'autre à faire. Mais c'est vrai, nous sommes sauvés par grâce, nous n'avons rien à faire pour le salut. Mais il y a une chose qui est écrite dans la Bible, et d'ailleurs, cela a été rappelé aussi dimanche dernier, c'est d'ailleurs une exhortation de Paul. Travaillez à votre salut, mettez en œuvre votre salut. C'est quoi mettre en œuvre notre salut, travailler à notre salut, sinon que de nous identifier à la personne du Seigneur qui s'est donné pour nous, et en retour, il nous demande aussi non seulement de nous donner pour lui, mais de payer le prix. Vous vous rappelez cette semaine, je crois que c'était mardi soir, nous avons examiné ce verset de l'Écriture qui dit « Rends le bien pour le mal ». Parce qu'en agissant de cette manière-là, tu amasses sur la tête de ton adversaire des charbons ardents. Moi, pendant longtemps, j'ai considéré que ces charbons ardents, c'était seulement ce que Dieu allait faire payer à ceux qui peut-être étaient une cause de souffrance pour moi. Mais c'est parce que Dieu dit, il dit, tu amasses des charbons ardents. Parce que si tu agis bien, il y a un espoir, c'est que la personne, par ton témoignage, connaisse la repentance. Et quand la personne a les yeux ouverts sur son propre comportement, sur son propre péché, alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pleurer, elle va avoir du remords, elle va avoir une souffrance. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, elle va réaliser le mal qui est fait. Mais c'est un peu ce qui nous est arrivé à nous, c'est ce qui va arriver au peuple de Dieu. Je vais terminer par cela. Quand Dieu parle de cette manière, que va-t-il se passer pour Israël qui a eu un comportement tellement odieux pendant des siècles et des siècles? Que va-t-il se passer? Quand Jésus va revenir pour exercer le jugement en plaçant ses pieds sur le mont des Oliviers, celui-ci se fendra. Mais la Bible dit, Israël reconnaîtra celui qu'ils ont percé et ils pleureront amèrement. Vous voyez, c'est ça la repentance. C'est ça le chemin par lequel Dieu nous mène. Alors oui, je dis non, je n'aime pas souffrir. Non, je n'aime pas les épreuves. Non, je n'aime pas les difficultés. Non, je n'aime pas la souffrance. Mais si la souffrance doit être le moyen par lequel je ressemble à ce Fils bien-aimé, Jésus, le Fils de Dieu, alors je dis, Seigneur, n'arrête pas ta main, mais conduis-nous jusque-là. Parce que le but de Dieu, c'est de nous rendre semblables à son Fils bien-aimé. Que Dieu vous bénisse.